Écho d'économie, Jocelyne Moussaou.
Bienvenue dans ces quarts d'heure d'actualité économique. Sylvain Matundou est à la mise en onde. Berry Franklin Luchaka nous donnera les nouvelles.
Une cargaison d'ail avarié a été saisie à Kasangoulou dans le Bas-Congo. Nous en parlons dans deux minutes avec Guy Roger Nyampala. Et puis First Quantum, actionnaire majoritaire dans Kingamia Mbomosono et Tailings, décide d'intenter un procès contre le gouvernement congolais, faute de compromis entre les deux parties. C'est un dossier à suivre dans la seconde partie de cette émission.
Une seconde partie qui reçoit Mumba Matipa, délégué principal du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. D'abord, les informations nationales. Anvil Mining va produire 40 000 tonnes de cuivre dans sa mine de Kinsevere au Katanga dès l'année prochaine.
Ce sera avant d'augmenter sa production à 60 000 tonnes de cuivre en 2012. C'est le vice-président de cette compagnie minière qui fait cette annonce. Robert Lavillière affirme par ailleurs que les deux autres unités de cuivre de la compagnie basées à Dikoulouchi et Mutushi restent encore suspendues jusqu'à ce que Kinsevere atteigne sa pleine capacité opérationnelle.
Une délégation d'AngloGold Ashanti Kilo est à Mungwalu depuis lundi.
C'est en province orientale et cela pour analyser la possibilité d'installer une mine d'exploitation d'or soit à ciel ouvert, soit sous terre après les travaux de prospection qui sont en cours. Le chef de cette cité minière située à plus de 80 km de Bunia qui livre cette information. Souvenez-vous que les ONG locales et internationales ont haussé leur voix la semaine dernière pour réclamer une bonne politique de communication entre l'Okimo, l'AGK et la population locale, surtout en ce qui concerne la délocalisation probable de la population.
Une quarantaine de journaliers de l'entreprise chinoise Grec observent depuis ce matin un arrêt de travail à Matadi.
Parmi eux, 7 sont en charge de la construction d'un nouveau pont au quartier Mpozo à Matadi. Ils dénoncent la réduction répétitive de leur salaire chaque mois. Ces journaliers affirment que leur salaire a été réduit de 180$ au moment de leur embauche en août 2009 à 80$ par mois à ce jour. Selon eux, leurs chefs chinois disent respecter la décision de leur hiérarchie de Kinshasa. À part la réduction du salaire, ces journaliers se plaignent des conditions de travail. Ils estiment qu'ils travaillent de 6h à 18h30 sans pause et sans transport.
Au Nord Kivu, les acteurs de la conservation de la nature réfléchissent sur la résolution des conflits de gestion transfrontalière des ressources du lac Édouard.
Il s'agit principalement de la production du poisson qui a baissé sensiblement dans les pêcheries du lac Édouard. Selon le secrétaire général du réseau pour la conservation et la réhabilitation des écosystèmes forestiers, en 1995, la production du poisson était estimée à 15 000 tonnes par an et aujourd'hui, on est à moins de 3 000 tonnes par an pour toutes les pêcheries cumulées du lac Édouard côté RDC.
En territoire d'Ouvira, les commerçants en province de pays voisins qui entrent par le beach Maendeleo sont en difficulté.
Ce sont des commerçants tanzaniens qui apportent des denrées alimentaires dans le marché d'Ouvira. Mais ils se plaignent des tracasseries des services de l'État. Ils sont victimes de plusieurs intimidations et menaces à leur endroit. Conséquence, les prix des denrées, les prix des produits de première nécessité prennent de l'ascenseur.
La nouvelle économique au bout du fil.
La nouvelle au bout du fil de ce mercredi nous conduit à Matadi dans le Bas-Congo où nous retrouvons Guy Roger Nyampala. Guy Roger, bonsoir. Une cargaison d'ail avarié a été saisie à Kasangoulou. Kasangoulou, c'est à plus de 340 km à l'est de Matadi. Dites-nous, Guy Roger, dans quelles conditions cette cargaison d'ail a été saisie?
Jocelyne, en fait, d'après une autorité politico-administrative de cette contrée, ces produits avariés ont été saisis pendant que l'équipage du véhicule à bord duquel s'est trouvé ces produits était en train de les déverser dans une brousse du village Kingantoko, toujours à Kasangoulou. L'équipage du véhicule a été aussitôt interpellé et entendu sur procès verbal.
Et quelle était la provenance de cette cargaison et à qui appartenait-elle?
D'après l'administrateur adjoint du territoire de Kazangoulou, cette cargaison était en provenance de Kinshasa, mais c'est au port international de Matadi que cette marchandise a été déchargée. Mm-hmm. Elle est sortie du port de Matadi pour Kinshasa donc. C'est ainsi que, présent lors de la saisie, le vice-gouverneur du Bas-Congo, Déon Koussou, s'est interrogé sur la manière dont ces produits avariés avaient quitté le port de Matadi sans être identifiés. C'est ainsi qu'il a décidé qu'une enquête soit ouverte à cet effet. L'identité du propriétaire de cette marchandise, Jocelyne, n'est pas connue selon nos sources.
Pour terminer, Guy Roger, où se trouve actuellement cette cargaison d'ail avariée aujourd'hui?
Eh bien, retenez que l'opération d'incinération de cette cargaison a commencé depuis hier mardi, selon l'administrateur du territoire adjoint de Kazangoulou. L'équipage du véhicule qui transportait cette cargaison d'ail avarié a été libéré, mais certains éléments de la police impliqués dans cette affaire ont été déférés devant les juridictions compétentes, selon la même source.
Merci beaucoup, Guy Roger Niampala. Bonne soirée chez vous, dans le Bas-Congo.
Merci.
Info économique en Afrique et à travers le monde. Berry Luchaka.
Berry, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale entérinent la réduction de la dette extérieure du Congo-Brazza de 1,9 milliard de dollars.
Cette réduction a été approuvée lors de son dernier conseil d'administration à l'issue d'une négociation démarrée en 2006, indique un communiqué conjoint du FMI et de la Banque mondiale. Cet accord engendrera des économies totales sur le service de la dette de 1,9 milliard de dollars, dont 1,7 milliard dans le cadre de l'initiative Pays pauvres très endettés et 201,3 millions de dollars dans le cadre de l'initiative de réduction de la dette multilatérale. Ces deux institutions ont félicité les autorités du Congo-Brazza qui ont atteint tous les objectifs qui leur avaient été fixés et qui étaient pourtant intransigeants. La RDC est encore en processus de cette réduction depuis la signature de l'accord triennal avec le FMI et la Banque mondiale.
L'Afrique devra disposer d'une monnaie unique continentale.
C'est le secrétaire exécutif du nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, NEPAD, qui réaffirme cette volonté tout en estimant que ce processus devrait passer par les organisations sous-régionales. Pour M. Mayaki, ancien Premier ministre nigérian, cette monnaie africaine ne peut être envisagée que sur le long terme. Et il faut rappeler que cette déclaration a été faite à l'issue de la dernière conférence de l'Union africaine qui s'est terminée hier à Addis Abeba.
Merci, Berry Franklin Luchaka, pour ces informations internationales. Nous te gardons dans ce studio pour la deuxième partie de cette émission.
Écho d'économie, le dossier.
First Quantum, actionnaire majoritaire dans Kingamiambo Musonoi Teling, décide d'intenter un procès contre le gouvernement congolais, faute de compromis entre les deux parties. L'annonce a été faite hier en Afrique du Sud par le responsable de cette filiale. Quelles peuvent être les conséquences de cette assignation? Berry Franklin Luchaka s'est pensé sur la question et c'est d'ailleurs pour cela que tu restais dans ce studio. Dis-nous, Berry, dans quelles circonstances cette nouvelle a été annoncée?
En fait, cette nouvelle a été annoncée hier à la conférence internationale des mines qui se tient à Cape Town en Afrique du Sud. Cette grand-messe réunit depuis le 1er février plus de 4000 participants, parmi lesquels des mineurs, des développeurs des projets, des analystes miniers, des gestionnaires des fonds, des spécialistes de l'investissement et même des ministres et des membres du gouvernement. C'est la 16e conférence annuelle du genre appelée Investing in African Mining Indaba, à laquelle participe aussi Martin Kabwelulu, ministre congolais des mines. Et donc, cette nouvelle a été annoncée devant tous ces participants.
Et comment peut-on comprendre cette décision de First Quantum?
Alors là, il est bon de faire un retour sur l'année 2009 parce que vous savez que c'est en 2009 que le processus de révisitation des contrats miniers a officiellement pris fin. Commençons par le Conseil des ministres du 4 août 2009, au cours duquel le contrat Kingamiambo Musonoi Tailings KMT en sigle est résilié. Rappelons quand même que KMT, sur le plan international, est détenu majoritairement par First Quantum à 65%, puis la SFI, filiale de la Banque mondiale, à 10%, et enfin l'institution financière sud-africaine à 7%. 5%. Et sur le plan national, il y a la Gécamines qui a 12,5%, et puis l'État congolais à 5%. Et le vrai problème qui s'est posé, ce sont les royalties, c'est-à-dire les taxes sur la production. Mmh. Le gouvernement réclamait 12%, alors que la filiale de Fescantum voulait en donner un seul pourcent.
La filiale de Fescantum, KMT donc. Et si ce sont seulement les royalties, pourquoi les deux parties n'ont pas arrangé le différend à l'amiable?
Là, des sources proches de KMT nous renseignent que la firme avait sollicité les négociations à l'amiable au lieu de passer à cette solution extrême. Mais le gouvernement est resté inflexible jusqu'à ce que KMT ait sollicité l'arbitrage national au tribunal de commerce de la Gombe. Cette confrontation a mené à la déroute de Fescantum et ses associés, et la société devrait même payer des dommages et intérêts à l'État congolais.
Et maintenant que Fescantum décide de porter l'affaire en justice internationale, comment réagit le gouvernement congolais face à la décision de Fescantum et de ses partenaires internationaux?
Bon, jusque-là, Jocelyne, aucune réaction n'est enregistrée dans le camp du gouvernement. Néanmoins, à cette conférence, Martin Kabelulu a réaffirmé la position du gouvernement selon les conclusions de la révisitation des contrats miniers du 14 novembre dernier.
Et actuellement, on parle très souvent d'ailleurs du climat des affaires. Est-ce que cette affaire Fescantum, gouvernement congolais, ne va pas avoir de répercussions sur ces climats des affaires qu'on veut améliorer?
Bon, du moment où la Banque mondiale, avec sa filiale, la Société financière internationale, fait partie des actionnaires, il est possible que la décision de Fescantum impacte sérieusement sur l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Et pourtant, le gouvernement est en train de lutter pour inviter les investisseurs étrangers à venir en RDC, s'il faut s'en tenir aux propos du ministre du Budget de la semaine dernière lors de l'évaluation de l'avancée de ce processus.
Le climat des affaires, nous recevons à ces sujets tout à l'heure la déléguée principale du comité de pilotage du climat des affaires en RDC et nous en parlerons. Merci Berry Franklin Luciaka pour ce dossier.
Merci Jocelyne.
L'entretien de ce soir.
L'entretien de ce soir, c'est avec Mumba Matipa, délégué principal du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Madame Matipa, votre comité, le comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires, existe depuis 2009, depuis août donc. Avec quel objectif ?
L'objectif principal est évidemment d'améliorer le climat des affaires, mais quand je dis le climat des affaires et des investissements, c'est très vague. C'est permettre à l'opérateur économique en RDC ou l'opérateur économique étranger qui voudrait investir en RDC de rencontrer un cadre qui lui permette de travailler de manière paisible et surtout de manière rapide. L'objectif principal de notre comité a été de revisiter toutes les législations, toutes les réglementations auxquelles les investisseurs sont exposés et voir dans quelle mesure est-ce qu'on pourrait premièrement essayer de réduire les délais. Donc ça, c'est un des premiers objectifs que nous essayons d'atteindre. Le deuxième objectif serait de réduire les formalités, le nombre de formalités, et enfin de réduire les coûts de ces formalités.
Le climat des affaires en RDC est mauvais, comme on le dit, mais ça c'est vraiment un terme général. Mais si on prend les choses au cas par cas, où réside vraiment le problème et c'est où qu'il faut améliorer?
D'abord, le comité de pilotage qui est constitué de 7 ministres, d'un représentant de la primature, un représentant de la présidence. Les représentants de la FEC sont toujours invités à ces réunions, ainsi que les partenaires internationaux qui nous accompagnent dans ces réformes que nous sommes en train de faire. Nous avons méthodologiquement élaboré d'abord une première feuille de route. Cette première feuille de route devait s'achever le 31 décembre avec 13 mesures. Ces 13 mesures ont été élaborées par des experts, parce que en plus du comité de pilotage, nous avons une cellule de 15 experts, plus ou moins, qui sont des experts qui nous ont été délégués par tous les ministères pour participer au travail technique, en fait, d'élaboration des mesures et des réformes que nous devons entreprendre. Alors, la première feuille de route contenait 13 mesures, des changements au niveau de la réglementation et qui ne nécessitent pas nécessairement l'intervention du Parlement. Ce sont limités réellement à améliorer d'abord la création des entreprises, à améliorer le climat d'obtention des licences pour les opérateurs économiques.
Mais quand finalement on pourra se dire ça y est, ça va plus ou moins?
L'amélioration du climat des affaires, on peut faire toutes les réformes que nous souhaitons, que nous estimons, qui sont nécessaires. Mais ce qui est important pour le comité, c'est d'abord d'inculquer et d'introduire un certain esprit qui doit s'imprégner partout. Pas seulement au niveau du comité, pas seulement au niveau des gouvernants tout entiers, mais c'est un esprit que nous devons instaurer dans toutes nos institutions, qu'ils comprennent l'importance de l'homme d'affaires. Parce que le développement du pays devra passer d'abord par l'entrepreneuriat.
Mumba Matipa, merci d'avoir répondu aux questions de Écho d'économie. Vous êtes délégué principal du comité de pilotage pour l'amélioration du climat des affaires et des investissements en RDC. Et c'est avec vous que nous terminons cette émission Écho d'économie de ce soir. À vous, chers auditeurs, merci de nous avoir suivis. Retrouvez-nous demain à 18h15, heure de Kinshasa. Vous pouvez aussi aller sur Internet, taper www.radiocapi.net. Merci. Bonne soirée. We'll be right back.